notre invité est là, donc je propose qu'on ne fasse pas trop attendre.
Comme tu veux, il n'y a aucun souci. Je sais qu'il est très demandé et que voilà, les séances de dédicaces
se prolongent un peu.
Et effectivement, tout à fait. On est ensemble ici jusqu'à 19h en live et en vidéo. On rappelle, tiens, pour retrouver le stream vidéo, c'est bon, on procède de quelle manière? YouTube?
On va sur YouTube et on cherche Attitude, votre radio. Et c'est bon, le son est revenu. On a une petite coupure, mais ce sera réglé pour le prochain stream.
Bon, d'accord, ok, ça marche. Et puis, Jérôme est là pour pouvoir nous prendre quelques photos, notamment, hein, et puis surveiller que tout se passe pour le mieux et alimenter le Facebook Attitude, mon cher Jérôme, et Instagram.
Effectivement. Donc, alors, je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Déjà, nous accueillons l'auteur Éric Cartier. Bonjour.
Salut les gars.
Bienvenue sur... Bienvenue sur le plateau Attitude, au milieu de cette expo Maiden. Alors, on va pas parler de Maiden, là on va parler plutôt des Ramones, parce que c'est le sujet.
Ouais, musique de vieux aussi, mais voilà, je suis le plus vieux, allez, c'est les Ramones, c'est ma jeunesse.
Après, donc, voilà. c'est la nôtre aussi. Hein.
C'est un temps, voilà. Ouais, je vais dire les Ramones,
alors,
c'est...
vous êtes des gamins.
C'est certainement, mais c'est intemporel, honnêtement, voilà, les Ramones, c'est quand même une sacrée belle histoire. Ouais. Et justement, on la trouve dans votre ouvrage qui s'appelle donc 1-2-3-4 Ramones, qui est sorti... et avec en partenariat avec Kaden et Betocourt, c'est bien
Betocourt, ça? Betocourt, ouais, c'est des potes qui sont à la fois musiciens et journalistes, c'est eux qui sont venus me demander parce que ils jouaient des Ramones, ils sont complètement comme beaucoup de gens qui aiment les Ramones, c'est presque un virus, on peut dire. Et ils avaient vu un bouquin que j'avais fait sur les USA et ils sont venus me demander, voilà. Et ça collait bien.
Bah, déjà le sujet est excellent parce que les Ramones c'est vraiment une sonorité bien particulière, une histoire aussi particulière, hein, ne serait-ce que les membres séparés eux-mêmes.
Il y a plusieurs raisons qui m'ont fait faire ce bouquin. D'abord, j'étais content qu'on me demande. Ça me faisait réfléchir à toute une période de ma vie où j'ai passé pas mal de temps à apprendre à dessiner à New York dans les années 80.
D'accord.
Or, c'était début 90, 80 et tout. C'était le moment des Ramones, de Blondie, d'Iggy Pop, de tout ça. Et donc ça m'a fait vraiment vraiment trop plaisir de me replonger là-dedans, parce que c'est pas uniquement les Ramones, c'est vraiment un portrait d'époque autour des différentes salles, de la rue, de toute cette ambiance là.
C'est que même si l'histoire est filée à travers les yeux de Didi Ramone ou Douglas, au final voilà, on voit pas mal de petits noms, notamment Debbie Harris, les Pistols, Divine, The Clash, Iggy and the Stooges, toute cette scène en fait qui a pas originaire de New York mais qui est venu à New York jouer.
Non, voilà, c'était ce qu'on appelait il y avait le village, le CBGB, c'était un peu le centre de gravité de tout ça, quoi.
Oui.
Et c'est vrai que ça a été un moment, moi c'est un moment qui est vraiment béni dans mes souvenirs. D'abord parce que, comme je dis, c'est ces moments où on apprend à faire des tas de trucs. Je faisais mes petits boulots, je faisais des chantiers, je bossais la nuit dans des restos, on allait voir des concerts, des afters. Le matin, tu pouvais te retrouver à côté de David Byrne ou d'Iggy Pop pour prendre ton café enfariné. Et la bohème avait du goût, quoi.
C'était vraiment...
Quelle période !
Ça a été vraiment... C'est pour ça que c'était génial pour moi de partager ça, parce que c'était à la fois passionnant, un petit peu Taxi Driver, un petit peu... Et c'est vrai que les Ramones sont intéressants, ça, c'est qu'ils sont rugueux, quoi. Ils sont... Ouais. C'est pas les gens de reparfait, loin de là. Didi, c'est quelqu'un... Moi, je suis tombé vraiment amoureux de Didi au sens du personnage. Il suffit d'aller sur YouTube, de chercher des documents avec Didi, d'un document à l'autre, tu peux dire putain il est génial, j'ai envie de lui payer une bière, et puis une autre fois tu vas dire mais putain mais c'est la cata, c'est pas possible, quoi. Des fois il était vraiment et il était comme ça. Moi j'ai eu la chance de le croiser.
Oui.
Je crois que j'ai même eu l'extrême chance de le croiser à un moment donné où j'étais peut-être un petit peu au fond, comme ça arrive quand on est jeune, au fond du trou. C'est une anecdote mais qui m'a marqué à vie. J'étais en bas de chez moi, la pièce où j'étais, sur la 9e rue, avenue A. Je terminais un mégot et il y a un type qui se pointe et il me demande s'il peut avoir une taf, et je le regarde, et en voyant le gars, bon, il y avait vraiment des drôles de caractère dans cette période et tout ça. Je regarde le gars, je tire 2-3 tafs avant de lui filer la dernière taf, parce que j'allais pas reprendre le mégot après lui, quoi. Le mec, il était rasé, il était au bout de sa vie, quoi. Donc j'ai eu beaucoup d'empathie, quoi. Je vois ce bonhomme et tout, je file mon mégot, il tape dessus, il me parle, il me dit deux mots, et d'un coup je regarde de près, et c'était Didi.
Alors ça.
Et c'était la période où il rentrait, où c'était qu'il était en Angleterre, tout ça, où il était down, où il était complètement rasé et tout. Et ça m'a fait une telle claque. Ouais. C'est-à-dire, je me suis dit, putain, tout ça pour ça.
Mais lui qui se retrouve là, ouais.
Ouais. Comme tu ça. Vois, il était, mais vraiment, moi, je pensais que j'allais mal, mais là, j'ai cru que lui, il était au bout de sa vie. Il était dans un tel état. Et ça m'a un petit peu électrochoqué, tu vois.
Ouais, je peux comprendre.
Et en fin de compte, ce qui a été extraordinaire en bossant sur cet album et en rebossant sur, en découvrant ça m'a plu de faire cet album parce qu'il était plein de surprises et puis même fatigant aussi parce qu'ils sont fatigants.
Mais c'est vrai quoi, c'est quand même un sacré parcours Didier Ramon. C'est vraiment moi je l'ai découvert en le lisant tout à l'heure. En fait, c'est un gamin, un fils de militaire alcoolique et violent. Alors les parents militaires alcooliques et violents qui lui tombe par contre très jeune dans la morphine et qui cherche un peu à expliquer
sans rajouter beaucoup dans le pathos. Mais c'est vrai, en lisant le script de Xavier Bettecourt, ouais, le premier truc qui m'a sauté à la gueule, c'est l'enfance de militaire. Moi, j'ai grandi dans des casernes.
D'accord.
Je suis avec ma copine, fille de militaire, elle est née à Berlin. Comme lui, il était à Berlin. Quoi.
Ouais, ouais, bah oui.
Et là, je me suis dit, mais c'est pas vrai, quoi. Tu vois, une sorte de. Et je me suis dit, comme quoi. Il y a un truc, tu grandis dans une caserne, t'as un peu envie de rock'n'roll, quelque part. Tu vois, ça prédispose à. Une sorte d'abord parce que voilà, on avait une vision réelle complètement dérapée, complètement assez brutale en effet. Et t'as juste envie de te casser, t'as juste envie. Ouais. Et donc en lisant ce bio, ça m'a retourné. Pour être honnête, ça m'a retourné.
Bah, il y a une citation dedans qui dit, moi ça m'a bien marqué, c'est on aurait voulu une vie normale, mais on était trop inadapté.
Ouais, il y a quelque chose de. De toute façon, c'est... qu'on le veuille ou pas, mais en fin de compte, même. Que ce soit, moi je suis parti quand j'étais plus jeune, j'étais parti pour aller écouter le Grateful Dead, donc on est loin du sujet, on va dire. Tu
effectivement,
vois
c'est pas ça.
Et quand je suis rentré de Californie, j'avais l'habitude de dire oui, je suis revenu en écoutant les Dead Kennedys.
Yes.
C'était ce moment charnière pour moi, ce qui a été incroyable. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, oui, tu y vas, tu vois que, ben oui, il y avait une idée, il y avait une révolte qui se heurte à un mur, les temps changent, à la Dylan, on va dire.
Ouais, ouais.
Et d'un coup, non, le son de ce moment-là, en fin de compte, voilà, années 80 et tout, c'était plutôt les Dead Kennedys qu'autre chose, tu vois.
Très influent.
Même si j'aimais bien écouter Garcia et tout ça, c'est pas le problème.
Oui.
Et c'est une famille, tout ça. Que ce soit la famille des Dead ou que ce soit une famille qui soit punk et tout ça, mais en fin de compte, un gang de jeunes quepons dans Loïs Village dans les années 80, c'est une famille qui s'est recomposée, qui va dans des squats, qui se lâche pas, qui, voilà.
C'est vrai qu'en soi, le principe du punk aussi dans la musique, c'est quand même quelque chose, c'est que c'est des personnes qui écoutaient, voilà, les Beatles, qui écoutaient du rock'n'roll, qui écoutaient des choses très, voilà, très, très, très rock, très blues, et qui se sont dit, on n'a pas forcément le niveau pour le faire, mais on va le faire quand même. Et on va le faire à fond, quoi. Et
voilà. Il y a une force de travail qui est quand même remarquable.
Oui, voilà.
C'est-à-dire, c'est des manchots qui se sont fait pousser les doigts, quoi.
Ouais.
J'avais jamais dit comme ça, mais
c'est tellement bien dit.
Mais c'est un peu, c'était la force d'y arriver. Moi, je dirais, c'est un peu pareil en dessin pour moi. En fin de compte, j'ai jamais pris de cours. C'était en regardant des trucs, en pompant à droite à gauche, en faisant du cartoon, Et c'est ça que j'aime bien dans cette énergie de la musique de cette époque et tout. Et c'est vrai qu'il y avait l'influence du garage que je trouve énorme. Moi, c'est vraiment le rock que j'adorais, vraiment le rock garage. Il y a un petit peu l'influence à la Beach Boys, bizarrement, un petit son mélodieux derrière. La fascination du succès des Beatles, je pense que c'est ce qu'on peut leur reprocher de plus à Johnny. Cette soif de succès quelque part. Alors, je pense que le succès, il arrive ou pas, c'est pas ça le fond du problème. Et pour ça que Didi est plus intéressant à suivre. Dans le groupe Tommy, il est intéressant, mais il est trop malin. C'est le premier à se retirer un petit peu de ce jeu de massacre. Il est produit, il est derrière, il laisse les autres prendre la batterie.
Oui.
Ouais, Johnny, il est trop. Il y a un côté, puis on le sait, quoi. Il était un petit peu réganien et tout ça, mais il cherchait vraiment le succès. Il était vraiment despote avec eux. Et Didi, il est le pote qu'on a tous eu ou qu'on aurait voulu être quand on était au lycée, du genre le dérapé de service.
Ouais, il cache quoi, de A à Z, quoi qu'il lui passe par la tête, il y est quoi, il est en
voilà.
Il est dedans quoi.
Il est, on dirait, un prof de français dirait, il est rimbaldien. Il y a quelque chose de super attachant dans sa sincérité, dans cette manière. Voilà, jusque dans son côté destroy, il y a du panache. Donc, c'est pas un exemple. Moi, je le dis, j'étais épuisé. À la fin du bouquin, je me suis dit, oh putain, les mecs, c'est pas des bras cassés, hein, ils y sont allés. Hein. Ils ont mis des bouchées doubles pour se foutre en l'air. Quoi.
J'ai bien aimé le petit détour, parce que moi, j'avais vu un documentaire sur les Ramones, justement, sur la carrière hip-hop et rap de Didi. Ça aussi, quand je l'ai vu mentionner, j'ai fait, ah, c'est bon, il en a parlé.
Ah,
c'est
ouais, parfait. Ah ouais, on est d'accord, quoi. Quand il a fait ça, je veux dire, c'était un moment, on savait plus trop sur quel pied danser. Je me rappelle très bien de ça parce que tout le monde était presque gêné pour lui, quoi. Tu vois, c'était, moi je parle, comme Dieu, je parle d'un temps à la, c'est les moins de 20 ans, comme Dieu. Je me rappelle avoir été au Roxy avec Africa Bambaataa, avec les Run DMC en backstage. Et moi j'étais là, genre, c'est quoi ce zik? J'y comprends rien. Moi je voulais juste écouter du hip hop. On allait chez Mink DeVille, des trucs comme ça. Mais sans frime, sans rien. C'était des gens authentiques, hyper proches, quoi. Oui. Je veux dire, avec des portes ouvertes et des fois des portes cassées, quoi. Mais quand il a fait ce virage de rap et qu'il s'est trimballé comme ça avec les chaînes autour du cou et tout, on s'est mis, c'est pas possible, quoi.
Ça reste toujours une petite blague dans les documentaires sur les Ramones. En fait, toujours cette petite parenthèse en disant, rappelez-vous, il a fait ça quand même.
Oui, voilà, mais c'est ce que je dis, c'est génial d'aller sur YouTube. C'est merveilleux, de toute façon, de retrouver tous ces documents maintenant.
Et justement, à propos de l'esprit punk, parce que parfois le succès arrive, parfois la scène accepte, parfois la scène ne l'accepte pas non plus. Et on va dire, les artistes, souvent on a l'impression qu'ils essaient de un petit peu de s'adapter, de tester les choses comme ça. Et il y a aussi un passage où ils se retrouvent à avoir un album produit par Phil Spector. Phil Spector, qui est maintenant officiellement reconnu comme un psychopathe, hein, un producteur.
Oui, il a fait ses preuves, hein, comme psychopathe.
Voilà, un très bon producteur, dirons-nous, certains diraient, mais avec une technique bien à lui, mais aussi un caractère et un tempérament de fou furieux.
Frappadingue.
Et bon, autant pour les Beatles, ça avait donné
avec
l'album.
Avec la pochette la plus laide du monde, il faut aussi le dire. En même temps, énorme producteur, ça c'est vrai, c'est incroyable, mais. Moi, je me suis barré parce que chaque fois, je voulais savoir, par exemple, quelle tête avait tel personnage exactement, parce qu'il a changé tellement de tête, le Phil Spector et tout. Donc, aller trouver. Je peux vous garantir que quand il sort son flingue, c'est un Schmidt & Wesson 38 Special Police. Je veux dire, on est pointu sur la doc, on bosse avec des journalistes. Mais c'est vraiment un drôle de bonhomme, quoi. Mais ce que tu dis sur le succès, c'est ça qui est le plus étrange avec les Ramones au fond. Ces types, quand ils sont allés au stade Maradona, voilà, tu parles à des Argentins. Moi, j'ai eu des lecteurs argentins par hasard à un festival. Ouais. Le mec, il en revenait pas loin. Un bouquin sur les Ramones, il me disait, mais tu sais pas, c'est des stars dans mon pays et tout ça. Il était ému, le gars. Et je lui dis, puis je lui montre que, voilà, je dis, ouais, voilà, tu vois, on a vu le concert, hein, en Argentine, et je lui montre que même dans une petite vignette, il y a une petite télé avec un présentateur qui parle des Ramones, c'est le présentateur brésilien. J'avais trouvé la petite vidéo qu'il me fallait, mais il remplissait un stade de 40 000 personnes.
Ouais.
Et à la même période, aux USA, tu pouvais les booker pour 1 000 $.
Waouh.
C'est incompréhensible.
Ouais, c'est incroyable. C'est fou. Enfin, je veux dire, échouer, c'est pas échouer parce qu'au final, ils sont quand même mythiques maintenant.
Ouais,
mais on va dire d'être en sous-régime chez soi et autant exploser ailleurs, quoi.
Voilà. D'être à Londres à un moment donné où, face à toi dans la salle, il y a tout ce qui va faire la scène punk anglaise. Ils sont tous là, ils sont tous ébahis. Ils défoncent la porte.
Ben oui. Oui.
Et eux, après, ça a été des jeunes qui portent un t-shirt Ramones avant même de comprendre.
On en croise pas mal. Ouais.
Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'ils ont sur le t-shirt, quoi.
Et ce que tu disais, c'est que la psychologie de Didi, c'est quand même la plus intéressante, parce que c'est vraiment le plus sincère au milieu de gens qui ont tous un petit peu leur toc. D'ailleurs, en parlant de toc, je crois que c'est Joey Ramone qui avait besoin, de taper sur, de faire 3 fois le tour du buisson avant d'entrer dans une voiture et de taper un peu sur le capot, parce que sinon c'était pas bon.
Il était toujours à la bourre parce qu'il allait voir 5 fois s'il avait fermé la porte, il remontait, il descendait l'escalier, il avait oublié, retourné. Il est hyper attachant, je veux dire, Joey. Hyper, hyper attachant. Sa mère tenait une galerie. Bon, tout ça, c'est le truc que j'ai découvert, en 10 ans, pareil, en bossant avec les scénaristes. Mais il a vraiment eu une chance incroyable, parce qu'il n'aurait pas été avec dans cette aventure de ouf. Il aurait réellement eu une vie de vraiment misérable. Tu vois ce que je veux dire, on dirait maintenant de gamin que tout le monde va harceler. Il était vraiment, vraiment à part, le pauvre. Et il a trouvé quand même, les gens l'adoraient, quoi. Je veux dire, on ne peut pas dire autrement, quoi, parce que c'est un mec hyper attachant. Pareil, il a trouvé de l'amour, même si c'est fait piquer sa main, parfois pour être joli. Bon, ça, c'est des relous, quoi. Tu vois,
Ouais, c'est brut, quoi. Et au niveau du temps de réalisation de l'album, parce que bon, on va dire qu'il y a quand même pas mal de planches.
Ouais, je crois que c'est 80 planches. Ouais. En général, je trouve qu'un bon rythme, sans compter le temps de préparation, je veux dire, quand tu te planches, il y a 2-3 mois de plaisir à aller rassembler de la doc, tous ces trucs-là, lire les trucs, regarder, ça prend du temps, quoi, parce que dès que tu mets le nez dans les documents internet, ça n'arrête plus. Mmh. En général, j'aime bien passer 3 jours par page. Quand je dis on compte pas les nuits, elles le sont aussi, quoi, mais c'est à peu près le rythme.
Comment ça se passe? Vous consultez les documents, vous prenez des notes, parce qu'après, faut ordonner tout ça, parce que c'est une masse d'informations qu'il faut réorganiser, et puis mettre en scène quelque
c'est
part.
C'est totalement bien vu, parce que le bordel, il est là. C'est d'avoir.
Parce que l'info, on peut la trouver avec le net aujourd'hui. Mais
de la classifier. Ouais. Ce que je faisais, c'est que je mettais. Alors, je regarde un truc, je mets sur le bureau de mon ordinateur. Tu vois, plein de trucs. Telle photo, tel machin, tel concert, telle photo dans tel backstage, tel truc. Et puis après, par exemple, ce que je faisais, c'est que je les réduisais, j'ai sorti sur des A4. Tu vois, je réduisais le truc parce que de toute façon, ce qui compte, c'est une attitude. Ce qui m'intéressait, c'est ça. Tu vois, l'attitude typique, comme il est sur sa basse ou des trucs comme ça, quoi. Tu vois, c'est l'attitude de Joe et de la manière dont il tient son micro, tous ces trucs qui font que c'est authentique. Quand tu présentes les concerts, c'est la première fois que j'avais un public de musiciens, fans de BD aussi qui venaient. Mmh. Et là, j'avais l'impression, pendant les 6 premiers mois, de passer mon examen Ramon, bac plus de Ramon, tu vois. C'est-à-dire que les mecs étaient là, parce que tous les gens qui les ont croisés, il y en a, ils ont croisé plus que moi souvent, tu vois. Ils ont vu plein de fois en concert. Et donc, j'étais content parce que, du genre, à telle date, il avait bien ce t-shirt, tu vois. c'est pas sur pied. Et après, j'avais par exemple, en face de moi, j'avais mis des panneaux style carton plume et j'ai épinglé tous ces A4 avec plein de petits documents. J'avais des animaux, j'avais plein de fois leur tête, tout ça, pour avoir des profils, des trucs de face, des expressions. Puis après, tu te lances, au bout d'un moment, tu te baignes et puis tu oublies la moitié de la doc, elle est perdue dans l'ordi. Mais c'est un peu ça, c'est pour ça que j'ai une période où tu t'imprègnes du truc. Ouais. Après, une fois que le bouquin il est lancé, puis après tu te dis, ah ouais, alors là, ils sont à Detroit et tout, il a rencard à tel truc. Et tu dis, merde, j'avais une doc, elle est où? Alors c'est là que tu vois que t'as pas référencé, que c'est un marécage. Tu passes des fois une heure à rescaler des photos devant toi. Mais ce qui m'intéressait, c'est Detroit telle année et tout. Ils sont dans tel club. Je veux la doc de tel club, de la devanture, de l'intérieur. Même si on le voit, donc ça peut juste. C'est un fond de case des fois, c'est ridicule.
Ouais.
Mais c'est comme faire un film en fin de compte. Oui. C'est se faire un film et c'est le fait de travailler avec deux potes qui étaient musiciens, journalistes, c'est ça qui était intéressant.
Et on sait que chaque case, effectivement, est bien référencée. Il y a énormément de références. Et pour les personnes qui veulent approfondir un peu, juste après la partie dessin, il y a tout un glossaire avec toutes les notes.
Il y a un truc histoire parce que c'est vaste. Tout ça, c'est vrai que c'est très très vaste. Donc on peut y aller, on peut picorer. Nous, on a suivi. Voilà, on a pris ce fil conducteur de Didi qui est. Mais je pense que vous allez plus avoir d'électricité vu tout ce que tu chatches, et puis il va falloir construire une centrale nucléaire.
Tout le monde nous fait signe qu'on doit partir.
C'est ce que je sens. Je vois les CRS qui se rapprochent.
Oh, moi, je serais bien resté.
Venez nous sauver, 22, on veut nous arrêter.
Bon, ceci dit, moi, je serais bien resté une demi-heure de plus, honnêtement, surtout pour un sujet comme les Ramones. Mais voilà, on va rappeler donc.
Et on revient demain parce que l'endroit est trop chaud. Venez tous.
C'est en dédicace demain, du coup. C'est en dédicace demain, de quelle heure à quelle heure?
Tout le monde, moi, je suis là toute la journée, tellement c'est cool.
Ah, bah, nickel. Donc voilà,
trop belle ambiance, venez tous.
Sur l'Expo Maiden, donc, et à retrouver donc Eric Cartier pour 1, 2, 3, 4 Ramones. Et nous, on sera là aussi.
Gaba, bon. Gaba, hey.
Merci, 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 merci Eric.
Merci beaucoup, Eric.
C'est passionnant.
Super.